Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Au fil des pages. Dans le cadre de notre partenariat avec Le Figaro hors série, nous vous présentons aujourd'hui le dernier numéro consacré à Camille Claudel. Alors pour parler de ce numéro, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Schmitt, membre de la rédaction du Figaro hors série. Bonjour Isabelle.
Bonjour Laetitia.
Alors à partir du 15 avril, le Musée Rodin organise une rétrospective Camille Claudel. Plusieurs autres manifestations sont prévues en province. Camille Claudel est aujourd'hui une artiste finalement assez populaire grâce au livre d'Anne Delbé qui était paru en 1982 et au film surtout de Bruno Nuiten avec Isabelle Adjani. Ils ont mis surtout en scène le drame de sa vie, mais cette fois-ci, c'est à son œuvre à proprement dite qu'on s'intéresse, qui est mise à l'honneur. Et j'ai envie de dire, il était temps. Jusqu'à présent, c'était un peu occulté justement par cette vie dramatique.
Oui, c'est vrai que je pense que le grand mérite, enfin en tout cas l'un des grands mérites de cette rétrospective sera de montrer toute la richesse de cet artiste qu'on connaît beaucoup plus comme une sorte d'icône de femme novatrice par son engagement dans le métier de sculpteur et par sa passion tragique avec Rodin, puisque c'est à la suite de cette passion et cette rupture qu'elle deviendra paranoïaque et finalement qu'elle sera enfermée dans un asile alors qu'elle était encore en pleine jeunesse.
Oui, et donc le mythe, quelque part, a pris le dessus sur l'artiste.
Voilà, c'est ça. Ce livre d'Anne Delbé et ce film, qui sont assez remarquables dans la justesse historique, j'ai revu récemment le film et c'est vrai qu'il est très impressionnant du point de vue de la documentation, mais également de la recherche qui a été celle du réalisateur de trouver des modèles vivants, enfin des hommes incarnant en fait les sculptures qui nous sont restées de Camille. Ce livre et ce film sont très intéressants, mais mettent plus en avant le drame de cette jeune femme si douée que toute sa richesse artistique. On la voit bien sûr défendre son œuvre, essayer de lutter pour se préserver de l'influence presque carnivore de Rodin qui s'approprie en fait les talents de la jeune femme. Mais c'est sûr que la vision qui est présentée dans le film est parcellaire et l'exposition, je pense, permettra aux visiteurs de découvrir toute la variété de l'œuvre de Camille Claudel.
La variété et l'apport artistique finalement qu'elle a eu.
Oui.
D'ailleurs, Aline Magnin, qui est la commissaire de l'exposition au Musée Rodin, qui est interviewée dans le Figaro hors série, insiste beaucoup sur cet aspect de vouloir rendre à Camille Claudel la place, une vraie place de sculpteur, enfin de statuaire, comme elle disait d'ailleurs.
Le statuaire.
Alors, comme toujours, le Figaro hors série est magnifiquement illustré. À travers les nombreuses photos que vous présentez, on plonge vraiment au cœur du travail de Camille Claudel et on perçoit l'originalité de son art. Et je dirais que la première particularité, la plus flagrante sans doute, est l'aspect autobiographique de son travail et sa force à représenter les mouvements de l'âme, pour reprendre le titre du cahier photo. Pour bien faire ressortir l'imbrication de son œuvre et de son destin, vous avez retracé sa vie à partir de 12 dates, qui vont de sa naissance donc en 1864 à sa mort en 1943. Et quels en sont les moments forts ?
Alors les moments forts, c'est un peu dur de distinguer des moments forts parce que je serais tentée de dire que toute sa vie fut une succession de moments forts. Tous les gens qui l'ont croisé depuis sa famille, son frère Paul a beaucoup écrit sur elle, mais depuis sa famille jusqu'à ses premiers maîtres et Rodin évidemment, jusqu'au fondeur qui diffusera ses œuvres ensuite, note l'extraordinaire énergie de cette jeune femme, une volonté sans égale jusqu'à l'obstination qui pourra aller jusqu'à l'anéantissement dans le travail. On peut évidemment parler de plusieurs phases de sa vie. En évoquant l'enfance, on pourrait dire que cette enfance voit naître très tôt la vocation artistique, puisque tout enfant, Camille modèle à même la terre qu'elle va récolter dans une carrière proche de chez elle, elle habitait à la campagne. Donc elle modèle des ossements d'animaux, elle essaie d'étudier l'anatomie, toute jeune, et elle réalise même un buste de Napoléon et de Bismarck, alors qu'elle est âgée de 12 ans. C'est à 12 ans qu'elle reçoit la visite d'Alfred Boucher, qui est un sculpteur de la région de Nogent-sur-Marne, qui vient leur rendre visite, et qui confirme aux parents Claudel que leur fille a un réel talent, et que cela vaudrait le coup de s'adonner à son art. Ses parents réagissent différemment puisque son père l'encourage énormément dans cette vocation artistique. Il décidera pour cela de s'installer à Paris pour permettre à Camille de suivre des cours dans une académie. Et sa mère, en revanche, la refuse, estime que ce n'est pas digne d'une jeune fille de bonne famille. Et les relations en fait avec sa mère se marqueront beaucoup Camille Claudel puisque... En fait, il semble qu'elle ne se soit jamais vraiment comprise, on ne peut pas dire jamais aimée.
Oui, mais... c'est sans doute dû aussi aux circonstances de sa naissance.
Oui, Camille naît un an après la mort de son frère aîné, et vraisemblablement, sa mère ne s'en remettra pas et lui reprochera implicitement de ne pas être un garçon, de ne pas être comme son frère, de ne pas être l'enfant dont elle avait rêvé. De ces relations très conflictuelles naît peut-être le caractère... obstiné, effronté selon Madame Claudel, mais en tout cas obstiné et très indépendant de Camille.
Oui, très fantasque en tout cas.
Voilà, très fantasque. Ça, c'est pour l'enfance. Ensuite, l'arrivée à Paris, Camille a 17 ans. Elle est d'abord inscrite au cours Collard aussi, où elle suit des cours de sculpture. Et puis, supportant assez mal la discipline ou peut-être l'académisme, elle s'installe dans un atelier avec de jeunes Anglaises qui sont venues en France apprendre la sculpture. Parce qu'à l'époque, en Angleterre, les jeunes femmes ne pouvaient pas sculpter d'après des modèles nus. Ça ne se faisait pas. Et donc, elle venait en France pour apprendre cela. Et c'est à ce moment-là qu'elle retrouve Alfred Boucher, donc le sculpteur qui était venu lorsqu'elle était jeune, qui lui donne des cours. Cet Alfred Boucher part faire un voyage en Italie et demande à Auguste Rodin, jeune sculpteur qui commence à être reconnu à ce moment-là, de venir donner des cours aux jeunes filles. Rodin se fait prier, mais finalement accepte. Et c'est là les premiers contacts qu'il aura avec Camille Claudel.
La vie de Camille Claudel va basculer.
Effectivement, il semble... Alors, dans le film de Bruno Niten, c'est comme si c'était presque instantané. Enfin, c'est très conflictuel au départ, mais on a l'impression qu'il se passe 2 semaines. En fait, il va se passer vraisemblablement 1 ou 2 ans pour que Rodin prenne toute la mesure du talent de Camille et puis qu'elle s'installe durablement dans sa vie, puisqu'elle devient à la fois son élève, vraisemblablement son modèle et en tout cas sa maîtresse. Assez vite. Elle a 18 ans, Rodin a 24 ans de plus qu'elle. Et très très vite, ces deux destinées artistiques et sentimentales se fondent, en tout cas pour un temps, mais avec une fécondité artistique certaine. Là, c'est pour la première période heureuse, enfin heureuse d'une certaine manière, puisque Camille est malgré tout contrainte ou se sent contrainte de cacher cette liaison à sa famille et vit entretenu par Rodin dans l'illusion qu'il va l'épouser et qu'elle va être l'unique. Or, c'est le début de son drame, puisque Rodin la trompe, elle le sait, on le voit dans plusieurs de ses lettres, notamment l'une d'elles où elle lui redit qu'elle est heureuse, etc. Et puis il y a un PS, surtout ne me trompez plus. Et donc, voilà.
Et surtout, il conserve sa relation avec sa...
Voilà, il conserve sa relation avec Rose Beuret, voilà, qui est sa compagne depuis 1864 et qui n'a pas la finesse de Camille, qui ne le comprend pas, mais à laquelle il est attaché et qui n'abandonnera jamais, contrairement à ce qu'il dit à Camille.
Espérer.
On a un texte assez connu que les biographes appellent le contrat, en fait, qui est une sorte de lettre. Une lettre amoureuse qu'il écrit en 1886, où Monsieur Rodin s'engage à ne prendre que Mademoiselle Claudel comme élève et comme modèle, et à l'épouser au terme d'un voyage en Italie, etc. En fait, cet engagement ne sera jamais, et plus les années passent, plus ce non-choix de Rodin entre les deux femmes pèse à Camille, plus leur relation se détériore. Et donc on entre là dans une période de sa vie mouvementée, où elle se retrouve assez seule, même si elle est encore plus ou moins avec Rodin. Et on parle d'un possible avortement qui aurait également été un drame entre eux. L'avortement qu'elle vit toute seule, si elle le vit, parce qu'il n'est pas totalement avéré. Et c'est la rupture est consommée à partir de 1892-93 et elle est absolument définitive en 1898.
Voilà. Mais parallèlement, elle atteint le paroxysme artistiquement.
Oui, et effectivement, artistiquement, elle est tout de même encore très féconde. En fait, il est intéressant de voir que, alors que Rodin s'épanche beaucoup dans ses lettres, et notamment ses lettres à ses amis, il parle de divinité malfaisante en parlant de Camille, et dit combien il est malheureux, Camille, elle, se livre beaucoup moins, mais va sculpter certaines de ses œuvres sublimes. Je pense notamment à L'âge mûr, où Rodin est représenté entre deux femmes, l'une qui incarne la vieillesse et la mort, et évidemment, qui incarne Rose Beret, et l'autre, jeune, qui se représente derrière lui, une main tendue vers lui, à genoux, éplorée. Et cette sculpture est magnifique, et en même temps, évidemment, elle ne peut laisser indifférent ceux qui la connaissent, et notamment le frère de Camille, Paul Claudel, qui voit là l'aveu public de cette relation scandaleuse et du fait que sa sœur est sous le joug d'un homme qui la dédaigne.
Et la dernière phase de sa vie, donc, après la rupture avec Rodin, petit à petit, ça va être la descente aux enfers, j'ai envie de dire.
Oui, alors une descente aux enfers qui sera progressive, parce que même si Camille est malheureuse, ses proches le savent, il y a tout de même une période où elle s'affranchit de Rodin et elle crée énormément, entre 1895 et 1905. Ce sont 10 ans où elle va produire notamment 3 œuvres majeures, qui sont La Vague, Les Causeuses et La Profonde Pensée, qui sont des modèles plus réduits en taille, mais avec une intériorité et une personnalité vraiment très particulière.
Et des matières aussi.
Et des matières, bien sûr, l'onyx, qui est très, très délicat à travailler, très difficile. Et on sent là toute la finesse de cette âme. Et tout le concentré des sentiments qui sont exprimés. Dans notre numéro en série, on a essayé de faire une sorte de comparaison entre les œuvres de Rodin.
On va y revenir.
Très bien, on en parlera. Mais alors, donc, pour finir sur cette évolution, effectivement, à partir de 1905 jusqu'à 1913, pendant 8 ans, en fait, elle crée, mais beaucoup moins. Elle se sent de plus en plus seule. Elle s'enferme finalement dans son dernier atelier, qui sera Quai Bourbon, et elle finit par attirer l'attention des voisins jusqu'à sa mère et son frère, qui finalement donnent l'ordre de l'interner quasiment au lendemain de l'enterrement de Monsieur Claudel, qui était le dernier défenseur de sa fille.
Voilà, et elle va être internée donc de 1913 à 1943, date de sa mort.
Exactement, 30 ans d'internement.
30 ans d'internement.
Pour une artiste atteinte de paranoïa, comme on dit les médecins, mais certainement pas folle, comme c'était le cas de la plupart des pensionnaires de son asile. Et cela ajoutera manifestement à ses tourments. C'est très apparent dans sa correspondance.
Bien entendu, donc, comme on vient de le voir, la vie et l'œuvre de Camille Claudel sont indissociables de celles d'Auguste Rodin. Et en effet, dans un article très intéressant, Olivier Madelin confronte les œuvres des deux artistes. Et on voit au départ que Camille Claudel est très proche de son maître, mais qu'elle se démarque assez vite. Et l'évolution de l'art de Camille est assez remarquable, je trouve. Et entre autres, on voit à un moment le penseur de Rodin qui est à côté de l'homme penché de Camille Claudel, et on sent vraiment les différences sensibilités de ces deux artistes.
Oui, c'est sûr que Camille Claudel, je crois, restera pour la postérité une élève de Rodin. Elle est exposée dans le musée Auguste Rodin, elle est connue comme telle. Mais l'intérêt de cette rétrospective, et ce qu'on a essayé de montrer dans ce numéro hors série, c'est qu'elle a beaucoup reçu de Rodin, mais elle s'en est servie pour créer une œuvre totalement différente. On connaît évidemment la fameuse phrase « Je lui ai montré où trouver de l'or, mais l'or qu'elle trouve est bien à elle ». C'est très flagrant quand on compare plusieurs œuvres. L'homme penché que vous évoquez est construit à côté du penseur, qui est, c'est vrai, d'une puissance ramassée, tout en muscles, et qui dégage une force presque brute. L'homme penché, lui, est construit comme presque un arbre dont on voit les nervures, dont on saisit les muscles, les nerfs, l'attitude, et presque plus la pensée que chez le penseur. Enfin, on pourrait faire le même type d'analogie en comparant l'éternelle idole ou le baiser de Rodin, sculpture si célèbre, avec Sakuntala de Camille. Sakuntala qui existe aussi sous le titre Vertum et Pomone, enfin, qu'elle a décliné après, mais qui sont en fait fondamentalement différents, puisque dans le baiser ou l'éternel idole, on a une sensualité clairement affirmée, la puissance du désir amoureux, qui sont décrites de manière avec une lumière assez crue, qui n'en est pas moins belle, mais une lumière très franche, très affirmée. Alors que dans Sakuntala, les corps se touchent à peine, on sent que c'est une tension toute intérieure et que la tension sentimentale est devenue presque spirituelle, voire mystique. Aline Magnin, qui est commissaire de l'exposition, émet l'hypothèse que chez Camille, il y a peut-être un souci de ne pas choquer. Personnellement, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, l'effet
une sensibilité, en tout cas féminine, voilà, et masculine dans un cas et de l'autre, même dans la représentation des corps, dans l'imbrication des corps aussi.
Oui, et puis on a un sentiment, alors là, d'un point de vue purement formel, un sentiment de finesse et d'achèvement qui est assez distinct dans les œuvres de Camille, des œuvres de Rodin. Pour une raison d'abord assez simple, c'est que Rodin était avant tout un modeleur qui faisait en petit format avant de faire mouler et recopier ses œuvres en grand format, alors que Camille sculpte plus directement et patine elle-même ses œuvres, ne laisse à personne le soin de le faire. Et donc il y a une perfection atteinte à travers ça.
Donc Rodin, bien sûr, et Camille Claudel, c'est le couple indissociable, je dirais. Mais il y a un autre personnage qui joue un rôle majeur dans la vie de Camille, c'est son frère Paul, donc poète et académicien par la suite. Alors Dominique Bonnard revient sur les liens unissant le frère et la sœur. Là encore, il s'agit de liens passionnés et ils forment aussi un couple incroyable.
Oui, ils forment un couple incroyable depuis le début. Parce que ce petit frère de 4 ans, plus jeune que Camille, va être le premier témoin de ses œuvres, le premier modèle. On a plusieurs bustes de lui, à 13 ans, à 16 ans. Paul sera à la fois l'ami, le disciple, mais aussi le témoin effrayé de l'évolution de sa sœur, témoin impuissant, qui n'a pas su comment l'arrêter, ou n'a pas voulu, disent les plus sévères. Parce que c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, Paul se convertit au catholicisme en 1886, et il garde évidemment une même affection à sa sœur, mais ses chemins divergent, il est assez horrifié de sa liaison scandaleuse avec Rodin, et finalement, alors que Camille plonge dans la déchéance, peut-être en essayant de la soutenir, il lui inflige plus des admonestations morales sur son comportement qu'une réelle aide.
Oui, est-ce qu'il finit pas par l'abandonner un petit peu ?
C'est le sentiment qu'on peut avoir en lisant la correspondance où Camille lui décrit sa situation en disant « ta sœur est en prison avec des folles et tu laisses faire ça » parce que c'est Paul qui signe l'ordre d'internement et qui va laisser sa sœur 30 ans à l'asile en lui rendant visite seulement 13 fois en 30 ans. Ce qui est... Alors c'est vrai
oui, mais qu'il... il est ambassadeur.
Il est ambassadeur, il a vécu 15 ans en Chine. Tout cela, il y a évidemment des circonstances qui peuvent expliquer. Il n'empêche que Camille lui garde une affection indéfectible. La dernière fois qu'elle le voit, et même sur son lit de mort, ses derniers mots vont à lui. « Mon petit Paul, mon petit Paul ». Et le petit Paul, entre-temps, n'a pas su comment arrêter le naufrage de sa sœur. Il a d'ailleurs, quelques années après sa mort, répondu à une interview radiophonique où il disait « Ah, ma sœur Camille, c'est terrible, c'est un sujet extrêmement douloureux pour moi. Elle qui avait tant de dons, elle n'est arrivée à rien, alors que moi, je suis arrivée à quelque chose. » Ces mots nous semblent un peu cruels.
À lui la gloire et à elle l'oubli.
Exactement, à lui la gloire et à elle l'oubli. J'espère que cette exposition prouvera que son appréciation n'était pas juste.
Alors, pour terminer, d'ailleurs, je voudrais qu'on évoque rapidement les dernières années de la vie de Camille Claudel, qui sont en effet assez tragiques, puisqu'elle se retrouve internée. Et la personne qui évoque ces années d'internement, avec un titre, donc sous un article qui est intitulé « L'emmuré », c'est donc Reine Marie Paris. Et il faut préciser à nos auditeurs que Reine Marie Paris est la petite fille en fait de Paul Claudel.
Oui, c'est la petite fille de Paul Claudel qui, alors qu'elle était étudiante en histoire de l'art, s'est mise à rechercher un peu dans les archives de famille des divers souvenirs, je pense peut-être pour retrouver certains souvenirs de son grand-père, et qui est tombée sur des lettres de Camille proprement déchirantes où elle racontait sa vie quotidienne à l'asile. Ces lettres, selon les dires de membres de sa famille, elle n'aurait jamais dû les lire et c'était
un peu le tabou de la famille.
C'était un peu le tabou de la famille, c'était le genre de secret qu'on préfère garder dans un tiroir fermé à clé et que Reine Marie Paris ouvre par effraction sans même le savoir. Mais ce tiroir et ce qu'il contient va proprement changer sa vie. Puisqu'à partir de ce moment-là, il se met à enquêter sur la vie de sa grand-tante, à rechercher ses œuvres, à les racheter les unes après les autres et à collectionner tout ce qui peut avoir trait à Camille Claudel.
Et elle est devenue la véritable spécialiste de Camille Claudel.
Voilà, une des véritables spécialistes, voilà. Mais une des spécialistes majeures. Elle a conçu un catalogue raisonné de ses œuvres. Et c'est vrai qu'elle s'est beaucoup battue pour réhabiliter Camille Claudel, oui, la faire connaître et faire connaître le calvaire qui a été le sien pendant 30 ans. Parce que c'est vrai que du point de vue du public et des gens qui la connaissaient, du point de vue de ses amis, des journalistes qui l'ont soutenue, de son fondeur, qui avaient vu sa lente déchéance, bah, une fois qu'elle était à l'asile, les premières années, évidemment, ils ont essayé de faire quelque chose pour elle. Ils ont même publié des articles de presse en montrant à quel point c'était scandaleux de laisser une telle femme au milieu d'un asile. Mais ensuite, évidemment, les années passant, le silence est revenu et Madame Claudel, mère, maintenant l'interdiction totale de visite, de lettres autres que les siennes ou celles de Paul Claudel, son frère, l'oubli est venu. Et donc on a l'impression que toute cette parenthèse passe assez vite, or c'est quand même 30 ans.
30 ans, oui. Alors nous arrivons au terme de notre émission. Nous n'avons pas eu le temps d'aborder tous les articles. Je renvoie donc nos auditeurs à ce beau numéro du Figaro hors-série sur Camille Claudel. Merci beaucoup Isabelle d'être venue nous présenter ce numéro.
Merci.
Au revoir et à très bientôt pour une prochaine émission.